Oui, ça va de pair avec la corporation de force. Pour être certain qu'il y aura le moins d'évasion possible, le moins de désertion possible dans l'armée allemande et dans les barres SS, Wagner a imaginé la responsabilité collective de la famille. Et cela va très loin, parce que le texte qu'il a publié donc en octobre 1943, se rendant compte qu'il avait effectivement eu préalablement un certain nombre de désertions, eh bien, c'est un texte qui rend responsable de l'action de l'incorporé de force ses pères, mères, frères, sœurs, ses beaux-frères, beaux-pères, même les parents adoptifs. Même les parents adoptifs sont responsables. Et cela se rayonne jusqu'au niveau des cousins. Oui, tout à fait. Oui, absolument. C'est très, très large. Très, très large. Oui. Absolument. Mais pour appliquer ces textes en Alsace, il fallait que ces textes soient introduits. Les textes en vigueur en Allemagne n'étaient pas là, ipso facto, applicables en Alsace. Donc il fallait que Wagner les reprenne, et reprenne tout ceci dans une ordonnance et que ça soit publié en Forum-Bundesblatt sur les Alsaciens. Donc il y a eu un espèce de journal officiel pour cette période où on a publié ces textes, et à partir du moment où ça a été publié, le texte était applicable.
Est-ce que Gürkel a vraiment autonome, mais il avait
directement était sur la coupe de Wagner? Non. Gürkel n'était pas du tout sur la coupe de Wagner. Wagner n'avait qu'un seul supérieur, c'était Hitler. Et encore, je trouve qu'il prenait pas mal de ses aises, je dirais, avec son supérieur. Mais Gürkel, c'était exactement la même chose. Lui également, il n'avait comme seul supérieur, de ce point de vue-là, que Hitler. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Par contre, il y a des rivalités entre les deux. Et Gürkel, lui, il va pratiquer, par exemple, des expulsions massives. Hein, il va guider des régions entières en Lorraine, de ses habitants, et il va faire venir des Allemands de la région des Sudètes, de la région de Silésie, de la région de l'Allemagne du Nord, de la Poméranie, et il va les implanter dans les maisons laissées libres par les têtes françaises qu'il a expulsées. Wagner ne veut pas d'expulsion. Schirmeck, au départ, on n'a que des Alsaciens. Gürkel ne veut pas envoyer des Lorrains à Schirmeck, parce que Schirmeck est sous la coupole de Wagner. Et Gürkel perdrait ainsi, si vous voulez, le contrôle. Ce n'est qu'en 1941 qu'il y a un accord entre les deux pour accepter également des Lorrains au camp de Schirmeck. Donc vous voyez, la rivalité existe effectivement. Et l'incorporation n'est pas la même. Wagner est effectivement celui qui aura incorporé le plus d'une classe d'âge. Gürkel en incorpora que 14. Et en principe, sauf par plusieurs disciplinaires, il y a des Lorrains également qui se sont retrouvés incorporés de force dans les Waffen-SS, mais pas directement. Gürkel n'a jamais incorporé directement des classes d'âge dans les Waffen-SS, ce qu'a fait Wagner. Donc il y a là aussi des différences dans l'action.
Est-ce que cette notion de responsabilité collective suffit-elle à discuter ou à expliquer le sort des malgré nous? Sachant que parmi ces malgré nous, il y en a qui se sont évadés.
Ben, certains se sont malgré tout évadés, oui, parce qu'ils ont, pu masquer en quelque sorte leur évasion. Lorsque un train est bombardé, il est certain qu'on ne va pas, il y a forcément des disparus, on ne va pas retrouver tout le monde. Donc c'est le moment opportun parce que vous êtes sauvés si vous avez envie de vous sauver. Et dans ces conditions-là, en général, la famille n'est pas inquiétée, parce qu'on le considère comme étant mort. Ça, c'est un exemple clinique. Bon. Pour le reste, ils n'ont pas à se disculper ou à prendre une part de responsabilité. Lorsque vous êtes incorporé de force, vous êtes incorporé de force, c'est un crime de guerre qu'on a exercé contre vous. Vous êtes une victime. Vous n'êtes pas une personne agissante. Je crois qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas inverser les choses. Hein. Lorsqu'on est incorporé de force, on est incorporé de force. C'est pas la même chose que des volontaires. Et là aussi, je peux vous le prouver parce qu'on a quand même quelques chiffres venant cette fois-ci des Allemands sur les volontaires qui ont réussi à avoir jusqu'au mois de mars 42. Ça ne dépasse pas les 1800. Ça ne dépasse pas les 1800. Et on a déjà de correspondance à ce sujet. Ils écrivent par exemple au mois de le 31 mars. Il y a une lettre qui part de la congrégation de Strasbourg et qui va au maire de Mulhouse. Et qui explique pour la ville de Mulhouse, parmi l'ensemble des fonctionnaires de la ville, malgré les pressions exercées, ils n'ont obtenu l'adhésion comme volontaire que de la part d'un fonctionnaire titulaire et de trois agents. C'est moi sur quand ils le reconnaissent. Et ils trouvent que quand même, c'est pas assez. C'est quand même un peu peu pour la ville de Mulhouse. Donc ce qui prouve qu'effectivement, certes, il y a eu des volontaires. Je crois que personne ne dit qu'il n'y a pas eu de volontaires. Mais il y a eu un nombre extrêmement limité de volontaires. C'est la raison pour laquelle on est passé finalement à l'incorporation de force. Sinon, ils auraient pu arriver avec les 1800. Ça paraît évident.
Oui, bien. J'aimerais juste pour ce qui concerne l'incorporation de force, il faut savoir qu'il vaut mieux incorporer de force que les soldats et les sous-officiers. Pas du tout incorporer de force les officiers français dans une adversité. Et très souvent, on nous dit ça. Deuxième élément, je rappelle quand même que la notion du problème des adversaires en tant que chef de guerre n'a été reconnue que très récemment par M. Sarkozy. Merci.
Oui, le président de la République a repris le terme de crime de guerre, mais moi je tiens quand même à vous dire. Et à vous rassurer de ce point de vue-là, que dès 46, le tribunal de Nuremberg avait reconnu le crime de guerre de l'incorporation de Corse. Je vous rappelle quand même que c'est Edgar Faure qui portait l'accusation au nom de la France. Et que, effectivement, l'incorporation de Corse y figurait. Donc les condamnations ont bien eu lieu sur cette base-là. La seule chose, c'est qu'on n'a pas voulu l'entendre. Hein, mais bien sûr que celui qui ne veut pas entendre, on a trouvé du problème. Alors, vous avez raison de souligner que les officiers de réserve n'ont pas été inquiétés par l'incorporation de force au départ. Par contre, Wagner a néanmoins essayé, parce qu'il s'est rendu compte que là, il y avait quand même une petite faille dans son système de raisonnement. Et en 44, il a essayé, malgré tout, de les incorporer. Et pour éviter, parce que... les lois militaires allemandes de 1935 ne le permettaient pas, donc ils voulaient penser de se porter volontaire en leur assurant le même grade ou un grade équivalent dans les Waffen-SS. Et il en a convoqué 50. Comme ils ont refusé de signer, ils ont fait plusieurs camps avant de se retrouver du côté de Hambourg dans un camp d'extermination. Et il y en a quand même énormément qui ne sont plus revenus. Donc il faut quand même, c'est d'ailleurs un crime qu'on vient reprocher également au moment de son procès. Le cas des officiers alsaciens, ça a été évoqué durant les 9 jours d'audience, seulement qu'ils viennent. Donc c'est le dernier cas qui était parfaitement revenu en 46.
Oui, d'abord, le gang de Lorraine de Bruxelles n'a pas été en cause pendant toute la période de l'annexion Lorraine. Il est parti à Vienne, il est 43, donc il n'a pas pu interrompu autant de passages dans l'armée allemande que...
Oui, le sentier de cette œuvre. Non, non, il a été jusqu'à la fin, il n'était pas tout à fait au début.
Ah, c'est ça.
Oui, tout à fait. Ah. Non, mais à la fin, il s'est sauvé de l'oreille. Hein. Alors, il a été mort suspect en 44, comme vous avez raison. Il n'est pas resté jusqu'à la libération. Est-ce qu'il a été empoisonné? On ne sait pas.
Il n'a pas été nommé à Vienne.
Il a été nommé à Vienne avant. C'est lui qui a fait la chose de l'Autriche. Il avait une forte partie après Wagner, parce que Burkel n'était pas non plus quelqu'un qu'on a nommé par hasard à Moselle. On l'a nommé parce qu'il avait déjà fait ses preuves en Autriche préalablement. C'est avant qu'il était en Autriche, avant la nomination de Garand. Il était en Autriche en 37 ou 38 par là.
Oui. Une question encore. Comment est-ce que le procès de Robert Wagner a été relaté dans la presse valoise, qui était aussi le Gauleiter du Pays-Bas?
Oui.
Est-ce que les comptes rendus étaient les mêmes? Parce que j'ai vu celui de la même nouvelle avec le drapeau et celui du mouvement français. Mais pour orienter, mais de l'autre côté, c'était comment?
Écoutez, de l'autre côté, on n'en a pas trop parlé parce qu'on avait d'autres problèmes sur les parts. On en a parlé, par contre, un peu plus tard, parce qu'il y aura, à titre posthume, en quelque sorte, il y aura un deuxième procès Wagner à Karlsruhe en 48. Parce qu'il avait encore des propriétés dans le pays de Bâle, et la confiscation de ces propriétés a entraîné donc un procès à la cour de Karlsruhe en 48. Et donc c'est à ce moment-là qu'on en a davantage parlé que le procès à Strasbourg. Par contre, il y avait des journalistes de la France entière, et notamment des grands journaux français, et le procès a été effectivement relaté dans la France entière, le procès de Wagner. Mais le procès est trop court, le procès de 9 jours. Alors, il faut bien dire, attendez, c'est du 23 avril au 3 mai. 4 mai, c'est le prononcé du verbe martial, déjà le 1er mai. Donc il y a déjà des audiences qui sautent là-dedans. Hein. Vous voyez, c'est très très court. C'était pas suffisant, ils ont parlé de l'ouverture du procès, ils ont surtout relaté le verdict. Mais il n'y a pas eu, au jour le jour des comptes rendus. Et ça, c'est aussi dommage, entre guillemets, parce que ça aurait permis, je dirais, à l'ancienne France, à la vieille France, de mieux comprendre ce qui s'est passé en Alsace entre 40 et 44, 45. Mais comme les journaux n'ont pas puisé à cette source-là, bien, beaucoup de gens ont ignoré et ignorent aujourd'hui, je dirais, la situation de l'annexion de Pelle et des conséquences. Oui, vraisemblablement, oui, absolument, oui, certainement, parce que c'est, pendant des décennies, c'est un problème qui commence. Aujourd'hui, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut, on veut. Mais il y a peut-être quand même quelque part encore ici ou là un petit peu de mauvaise volonté, ça c'est aujourd'hui. Un autre problème.
Dernière question. Oui,
monsieur,
toujours sur cette question-là, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité du gouvernement français de l'époque dans le fait qu'il valait mieux pas trop parler de ce procès?
Ah, peut-être. Il y a peut-être un problème, ça c'est sûr. Moi je n'ai rien trouvé, si vous voulez, dans les pièces du procès, parce que j'ai vu les archives du procès Wagner, qui a une résonance véritablement politique. Peut-être que la pièce n'a pas été versée aux archives, donc là, et qu'il y a eu des non-dits, des choses verbalement transmises. Donc ça n'a pas, en tout cas, pas laissé de trace. Il faut quand même comprendre que 46, on a encore une interprétation de l'histoire qui est assez particulière. On a l'habitude, encore en 46, de considérer que la France éternelle, c'est celle qui est forcément passée par Londres. Hein, et que Vichy, c'est une caricature, Vichy ne devait pas exister, Vichy on ne peut pas contourner un phénomène de cette nature et rayer d'un trait de plume la fin des hostilités entre la France et l'Allemagne en 40. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le faire? Parce qu'on était du côté des vainqueurs, parce qu'on n'a pas laissé les armes, parce qu'on a continué, parce que, vous voyez, c'est difficile à expliquer autrement. C'est difficile à dire qui était dans l'illégalité en 40. Vous comprenez qui s'est révélé contre l'autre, qui avait l'autorité de dire on arrête tout, on continue. C'est ça le fond du problème. Mais je pense que 70 ans après, on est en droit d'avoir une autre analyse et de voir les choses avec une plus grande réalité.
Dernière question.
J'en ai fait un ouvrage sur le procès de Bordeaux qui me semble bien présenter le problème. Le problème Wagner, c'est lui qui est à l'origine en réalité de tout le mal des Malgré-nous. Parce que c'est lui qui, contre vents et marées, a insisté pour qu'on incorpore et qu'on incorpore même outre le droit qu'il avait, c'est-à-dire dans les MFS. Bon, partant de là, vous avez à Ouagadougou, malheureusement, vous avez des Alsaciens qui se trouvent dans cette fameuse troisième compagnie à Ouagadougou. Et tous ces jeunes sont de la classe 26, incorporés au mois de février. Je vous rappelle qu'il y a un train qui est parti de Strasbourg avec 800 de ces jeunes. 800, ils étaient dans la division d'assage. Ils avaient 16 ans et 3 mois en Ouagadougou. 16 ans et 6 mois. Ils n'avaient pas tout à fait 17 ans. Et ils se sont retrouvés, ils n'avaient jamais quitté leur village, ils se sont retrouvés dans une situation impossible. Impossible. C'était en plus leur premier fait de guerre. Vous ne savez pas ce que c'était. Vous ne connaissez pas ce genre de situation. On ne leur avait pas expliqué, on ne les avait pas entraînés à ça. Ce n'est qu'au dernier moment qu'on leur dit, vous verrez du sang couler. Vous ne savez pas ce qu'ils devaient faire, vous ne savez pas où ils allaient. Et quand on les est pas sur eux, on les a posés comme sentinelles. Et on a emmené très très peu à l'intérieur pour tirer. Alors ça c'est au ballot, monsieur. Est-ce que vous connaissez le problème de Robert d'Espagne? La localité. Vous voyez, on connaît beaucoup mieux le ballot que Robert d'Espagne. Robert d'Espagne est une des localités avec trois ou quatre autres et qui se trouvent dans la vallée de la Meuse. Qui se trouvent dans la vallée de la Sault. Et là, il y a une grande différence avec Oradour, c'est que là aussi on a voulu faire des représailles. On a voulu faire des représailles. Et on avait des incorporés de force. Et les incorporés de force ont sauvé les villages. Et tous les ans, le 29 août, il y a une manifestation patriotique dans ces villages-là qui rend hommage aux incorporés de force qui ont sauvé finalement leur localité. Parce qu'ils ont eu le temps, parce qu'ils savaient d'avance que dans ces localités, on va saisir tous les hommes et on va les fusiller. Ils ont eu le temps de prévenir la population en disant « Fuyez, gardez la forêt, cachez-vous, parce qu'il y aura des représailles. » Et ça, c'est authentifié. Ça, c'est authentifié. Je suis allé sur place, j'ai pu constater le phénomène. Mais on ne parle pas de la vallée de la Sault. Et c'est évident. Je m'attendais un jour à découvrir quelque chose de cet ordre. De découvrir un orateur à l'envers, en quelque sorte. Et ça, c'est un orateur à l'envers. Malheureusement, ces jeunes n'ont rien pu faire et se sont retrouvés dans une situation impossible. Je dis bien impossible. Mais qui a commis le crime? Celui qui a le bras ou celui qui tire? Voilà le fond du problème. Celui qui donne l'ordre ou celui qui exécute? Voilà le fond du problème. Pour les juges, vous voyez, ils ont été blanchis. Celui qui exécute, les juges ont répondu pour eux-mêmes qu'ils ne sont pas coupables. Cruzot a été, José Barnet a été, ce peuple-là, arrêté. Alors pourquoi celui qui est simplement incorporé, suite à un gil de l'air, aurait-il finalement un autre jugement? Je crois qu'il faut, faire la même, c'est la même balance. Hein. Aujourd'hui, met en doute l'incorporation de force, c'est vraiment la mauvaise volonté. On lui envoie l'ordonnance du 25, on lui dit démontrez le droit. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Ça a été publié, ça a été appliqué. Il y a des limites dans la mauvaise foi, excusez-moi madame, mais moi je veux bien expliquer, je veux bien prouver. Mais si je parle à ce poteau et qu'il n'entend rien du tout, moi je ne peux pas lui ouvrir les oreilles, hein, c'est pas possible. En 53. Et le procès Wagner est en 46. Et ça change tout également. Et ça change tout aussi par rapport aux autres procès qui vont suivre. Parce que, je répète encore une fois, c'est le premier volet, si vous voulez, le premier temps, hein, je remonte mon éditeur à gauche, il y a un deuxième temps qui va porter sur les procès des camps, qui eux sont beaucoup plus tard. Le procès de Bonk, ça va être en 53. Vous voyez, avec là aussi une aberration, puisque ça sera l'ouverture du procès de Bonk, c'est le même jour que l'ouverture du procès de Bonk. Comme par hasard, une indélicatesse politique énorme. Ce qui fait que ça révolte évidemment les gens en Alsace. Parce que comment est-ce qu'on va faire la comparaison entre les pensionnaires et les victimes? Bon, ça c'est une chose. Mais, si je prends le procès des médecins de Choudon de Tchirmer, eux c'est encore plus tard, c'est en 54. Et en 55, on va déjà les relâcher. Vous voyez là, 10 ans après guerre, la situation est radicalement différente.
Et le temps a
Le temps a fait son œuvre, et toute la technique des avocats, ça va être, je vais comprendre, de faire durer le plus possible l'instruction. Bien sûr, pour l'instant, ces gens-là sont en prison, certes, mais ils ont réussi quand même à sauver leur tête. On n'a rien caché, donc, et condamné trois fois à mort, pas une fois. Trois fois qu'il est condamné à mort, une fois dans un tribunal anglais, deux fois dans un tribunal français. Et deux ans après, on peut le faire. Et il meurt grandement dans son lit dans les années 71.
Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous.